time is 8:25 a.m. on November 20th, 2013. We will begin the contractual compliance program updates and Q&A session for ICANN 48 in Buenos Aires, Argentina, shortly.
Hey, sí, hey. Hit.
Good morning, everyone. It's
8:35. Bonjour tout le monde, il est 8h45, on va commencer. 8h35. On voulait voir si tout le monde pouvait venir ici des autres salles. Donc on a attendu 5 minutes. Merci d'être venu à notre séance ce matin, si tôt. Je suis Maggie Sarad et je suis la vice-présidente de conformité contractuelle. Cette séance de mercredi est devenue une tradition pour nous. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est comme ça qu'on l'appelle, un sujet intéressant. Et on invite aux gens de la communauté à nous rejoindre pour une mise à jour de conformité, mais aussi pour un dialogue avec toutes les parties prenantes. Donc ce n'est pas simplement une présentation où on parle au registre, au bureau d'enregistrement ou à la LAC ou aux opérateurs d'enregistre. Donc c'est très bien de l'organiser, on veut dialoguer avec tout le monde et on espère que ce sera le cas aujourd'hui. J'ai Greg DiBiase ici avec moi, il est membre de l'équipe de conformité. Il traite plein d'inexactitudes WIS. J'ai aussi Victor Oppenheimer avec moi. Victor travaille sur les efforts de GTLE, les nouveaux, les actuels et les antérieurs, mais il est aussi membre de l'équipe de conformité contractuelle. J'ai Carlos Alvarez ici à ma droite aussi. C'est notre membre le plus ancien dans l'équipe de conformité. Et il contrôle plein d'activités, mais il contribue aussi à beaucoup de nouvelles initiatives. Notre propos aujourd'hui était de vous présenter, en à peu près 15 à 20 minutes maximum, tous ces sujets que vous avez sur l'écran. Une fois qu'on aura présenté, on aura une séance de questions et réponses. C'est là qu'on demande aux participants de s'engager avec nous, que ce soit à travers des commentaires, des questions, des clarifications. Et nous allons revenir aux diapos et répondre à ce que vous mentionnez. Parfois, ça peut être des questions entre vous, les parties prenantes. Donc encore une fois, bonjour et bienvenue à cette séance. Donc le premier sujet avec lequel on commencera. La soumission de plaintes en masse de la CAN est maintenant en production, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent présenter jusqu'à 100 plaintes par semaine et peuvent présenter tout cela en un seul téléchargement de fichiers. Ça a été présenté en un programme pilote entre juillet et septembre cette année et les utilisateurs ici pouvaient soumettre jusqu'à 100 plaintes par semaine. Chaque plainte était traitée individuellement pour la conformité du processus 1, 2, 3. Sur les 140 plaintes reçues pendant ce programme pilote, tout a été résolu dans le premier lot de traitement. Et qu'une plainte soit présentée en processus massif ou individuellement, l'ICANN va revoir ce qu'a présenté ce rapporteur. On a certains exemples de plaintes invalides et c'est des plaintes qui réfèrent à données qui ne font pas partie des données WIS ou alors des rapports qui contiennent des insultes ou alors qui font des références au fait que ce n'est pas dans la porte.
When ICANN receives an invalid
de l'équipe de conformité contractuelle. L'ICANN, lorsqu'on reçoit ce type de plainte, va parler de pourquoi la plainte était invalide. Si un rapporteur ne répond pas à cela, à la sensibilisation de l'ICANN, et continue de déposer des plaintes invalides, l'ICANN va interrompre temporellement leur capacité de présenter des plaintes. Et ça a arrivé deux fois cette année. Dans le premier exemple, le plaignant a présenté 191 plaintes d'inexactitude WIS en 8 semaines. Ils ont reçu une notification de clôture des plaintes de l'équipe de sensibilisation de l'ICANN. Donc chaque champ dans les données était incorrect, il disait, même si les données qu'il rapportait étaient des services de WIS de confidentialité bien connus. Dans le deuxième exemple, on a reçu 37 emails avec un langage insultant par le personnel de l'ICANN. Tels exemples l'ont fait de la sensibilisation et le rapporteur continue de déposer des plaintes invalides. L'ICANN peut suspendre temporellement les plaintes de ce rapporteur. Pour nos participants à distance, on vous informe que vous ne pouvez pas voir notre présentation sur la salle Adobe des Magisseran, mais l'équipe technique peut le faire. Ils nous entendent? Bien. Donc on va continuer avec la présentation. Cette présentation va être publiée sur le site web ICANN.org. On s'excuse pour cette difficulté technique, mais cela est en train d'être résolu.
Now a very brief update on the.
On a maintenant une mise à jour sur les politiques qui ont été expirées. On a mis à jour cela pour incorporer les mises à jour de la politique une fois avant que cela soit inauguré, donc avant le 31 août. Et depuis, notre équipe a reçu à peu près 40 plaintes sur le ERRP. C'est Victor Oppenheimer qui parle. L'un des problèmes principaux qu'on a vu par rapport à la politique est que le bureau d'enregistrement, certains parmi eux, n'avaient pas correctement mis à jour leurs accords d'enregistrement, d'accréditation, et ils avaient des politiques d'auto-renouvellement pour inclure ces exigences dans la politique. Il y en a qui n'ont toujours pas envoyé les notifications de renouvellement comme ils devraient l'avoir fait. Ils devaient envoyer deux notifications de mise à jour ou de renouvellement la dernière une semaine avant l'échéance de leur accréditation. Et puis la dernière occasion était 5 jours après, en fait. Il y a eu des gens qui pensaient que vu que les domaines arrivaient à leur échéance avant le 31 août, même s'ils n'étaient pas renouvelés avant le 1er septembre, ils devaient suivre cette voie et donc ils allaient devoir mettre à jour ces cas-là. On essaie de protéger les registrants et les titulaires d'enregistres sur la base de ce que la politique nous offre. Par rapport aux activités de sensibilisation, l'équipe a mené et a participé à certaines réunions de sensibilisation, particulièrement par rapport aux ERA 2013. C'était des réunions à Los Angeles, en Chine, à Xiamen, et à Berlin, en Allemagne. On m'informe aussi qu'il va y avoir. La séance de sensibilisation des ERA 2013 pour les bureaux d'enregistrement de l'Amérique latine vendredi. Ce serait bien si vous pouvez venir, ce sera un jour complet, ce sera une bonne occasion pour bien travailler ensemble sur ce sujet. À un haut niveau, lorsqu'on exécutera le nouvel accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement, les bureaux doivent s'engager dans des contrats avec leurs revendeurs. Le RA 2009 a fourni aux bureaux d'enregistrement, ou en fait, ça prévoyait que les bureaux d'enregistrement devaient aussi se conformer au format spécifique qui est suggéré par les spécifications des nouveaux RA. C'est un point sur lequel l'équipe travaille. C'est un travail très intensif pour détecter les instances dans lesquelles les bureaux d'enregistrement qui exécutent le nouvel RA ne se conforment pas au nouveau format qui devrait s'occuper de leur corporation. Les bureaux d'enregistrement doivent aussi fournir des informations spécifiques pour que la CAN publie ces informations sur leur site web. Vous pouvez lire l'information requise sur la diapo. Vous avez l'adresse là-dessus aussi. Les spécificités d'exigence de l'adresse, de l'exactitude et le nom de l'entité principale du bureau d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement qui font partie de grandes familles ou alors qui appartiennent un affilié d'un autre affilié d'une entité contrôlante vont devoir avoir un contrat. Donc ils alternent pour l'autre entreprise aussi. Ils doivent donner la notification à la CAN dans le délai de 7 jours en cas de banqueroute ou de faillite. Les bureaux d'enregistrement peuvent être en fait emprisonnés. Ils sont des victimes d'infractions de sécurité. Notre équipe a maintenant de meilleurs outils. Particulièrement, il y a d'autres raisons pour suspendre et annuler le RAA. Et les CEO, donc les PDG, les présidents ou les gérants doivent certifier en janvier de chaque année que les bureaux d'enregistrement se conforment à leurs obligations avec l'ICANN. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit notre équipe, pour se préparer pour aborder le nouveau contrat, on a compilé de nouvelles pages de questions fréquentes qui portent sur les dispositions que l'on a ajoutées dans le RAA 2013. Ces nouvelles pages portent sur les services de protection de la confidentialité et le format WIS. Vous les trouverez du côté de la conformité si vous vous rendez sur ICANN.org, puis ressources, finalement conformité. Si vous descendez, vous avez la soumission de plaintes et questions fréquentes. Vous allez voir qu'on a plein de questions fréquentes. Vous me trouverez, vous allez les trouver. On est aussi en train d'adresser les nouveaux types de plaintes qui s'occupent d'autres obligations. L'utilisateur pourra se plaindre s'il considère que les bureaux d'enregistrement ne se conforment pas au contrat. Et on est en train de mettre à jour aussi les types de plaintes pour faire des modifications de l'accord actuel à l'inexactitude WIS, aux informations qui manquent, l'information de contact de bureau d'enregistrement et tout ce que vous voyez sur la diapo. À partir du 1er janvier 2014, les bureaux d'enregistrement vont devoir fournir un contact en cas d'abus et ils vont devoir se conformer à certaines exigences de contact en cas d'abus. Donc bref, ils devront dire qui est leur personne de contact pour traiter les plaintes d'abus. Et ils doivent suivre ou publier le processus qu'ils devraient suivre dans le délai de 24 heures. Cela porte spécifiquement sur les plaintes qui viennent de l'application de la loi dans leur propre juridiction. Donc c'est un peu trop spécifique, mais on en a besoin. Les bureaux d'enregistrement, les revendeurs doivent donner aux titulaires d'un registre un lien des bénéfices et des responsabilités. Donc c'est une obligation qui existait déjà dans le RAA 2009. On a l'exactitude de WIS et les spécifications de ce programme. On a les spécifications de la rétention de données, c'est-à-dire que les bureaux d'enregistrement doivent entretenir les données pendant 2 ans, mais si la loi ne leur permet pas de le faire, ils peuvent suivre certains processus avec la CAN pour ne pas avoir à suivre cette obligation, pour ne pas devoir enfreindre la loi locale. L'accord du niveau de service des données WIS. Donc maintenant, ils vont devoir fournir le service de WIS qui devra se conformer à des délais spécifiques et ce service va devoir répondre à 0.1 milliseconde ou 0.2 millisecondes. Donc ils vont devoir s'adapter à des temps de réponse, à des disponibilités et à des serveurs de WIS qui vont devoir être en ligne dans les délais que le RAA mentionne, je ne me souviens plus, mais c'est soit 100%, soit 99,99999%. Et puis, ils vont devoir se conformer au programme d'enregistrement de confidentialité et de proxy. Et c'est ce qu'on espère. On voit ici voyez rapidement les activités qui sont déjà effectives et celles qui vont être en vigueur à partir du 1er janvier 2014. Ce sont les dispositions qu'on voit ici. Maintenant, je passe la parole à Victor. Bonjour tout le monde, c'est Victor Oppenheimer qui parle. Ah bon. Je suis le gérant senior et je venais vous mettre à jour les efforts de conformité des nouveaux GTLD. Depuis Durban, on a fait des efforts qui se sont centrés principalement sur la mise en œuvre des exigences que l'on avait identifiées dans la phase de planification. Commençant par la phase que l'on appelle la transition à la délégation, c'est-à-dire la contractation. Un groupe de conformité opère et traite la conformité des candidats qui sont identifiés comme capables de signer le contrat. Donc on leur fait une vérification de conformité sur la base de toute autre déclaration d'affiliation croisée. La conception de notre phase de mise en œuvre était préparée sur la base de la naissance d'un nouveau TLA pour un contrat dans les périodes d'enregistrement. On a été occupé pour préparer ces formulaires pour tous les utilisateurs, pour la non-conformité supposée des opérateurs. Vous voyez identifié sur la droite de la diapo tout ce qu'on a fait. C'est pas la période d'enregistrement prioritaire et je l'expliquerai dans ma diapo suivante. Voilà. Donc, à partir de cette diapo, on veut transmettre l'idée que la portée de nos efforts de contrôle sont dans la ligne du contrat. Et les politiques de consensus applicables sont en fait applicables par référence, c'est-à-dire que les procédures de résolution de litiges ont des mécanismes de protection de droits et des exigences d'après le document pertinent pour les services d'enregistrement prioritaire et les services de plainte. Et c'est un aide-mémoire pour qu'on n'oublie pas que les limites du RAA en fait revient à l'article numéro 1 et aux accords de l'article numéro 2. Voilà ici un panorama du point où on en est en ce moment par rapport à ce que j'ai dit avant. C'était les formulaires web qui sont complétés ou pour le suivi interne ou les plaintes internes ou alors pour les plaintes externes qui portent sur le public, l'intérêt public. Donc, vous voyez ici, les premières deux sont de l'escroc de données, dépôt de données. Les rapports mensuels ne sont pas visibles au public. Ce sont des processus internes que l'équipe de conformité contrôle de façon régulière. Et si on voit de la non-conformité, on va générer une plainte nous-mêmes. D'autre part, les processus qui sont publics seront par exemple la période d'enregistrement prioritaire, la zone d'accès centralisée pour les utilisateurs finaux qui ont des difficultés pour accéder aux fichiers pertinents de la zone TLD. Et sur la droite de la diapo, vous voyez les rapports sur lesquels on travaille. Pour les matériels de formation comme les questions fréquentes ou le formulaire web pour la soumission, le dépôt de plainte. On a fait hier une activité de sensibilisation avec tous les représentants des 24 GTLD qui ont été délégués jusqu'à présent. C'était un grand succès. L'idée de cette sensibilisation est de commencer ou d'entamer des communications collaboratives avec ces nouveaux opérateurs de registre dans le début de la duration de leur contrat et d'établir des collaborations d'après le contrat aussi. Mangisarad qui prend la parole. Ce que vous avez entendu dire aujourd'hui est lié à toutes les initiatives qu'on a en progrès à l'ICANN. On a beaucoup de travail entre nos mains en ce moment. On pensait que 10 plaintes, en fait, étaient suffisantes pour l'ERA 2009 et 2013. Et avec le TLD, on passe de 10 à presque 40 types différents de plaintes avant juin 2014. Alors, toute l'analyse et les révisions et l'envoi d'informations et de formulaires web pour pouvoir non seulement recevoir des rapports et des plaintes, mais principalement pour pouvoir fournir des informations au public pour expliquer de quoi il s'agit et pourquoi. Donc voilà l'effort sur lequel se centre l'équipe. Parce qu'on peut recevoir et traiter, mais c'est comment la communauté le reçoit et le comprend, ce qui importe pour pouvoir déposer des plaintes avec l'équipe de conformité. Donc, dans les diapos suivantes, je vais mettre à jour le programme d'Audi. Je reviendrai à la diapo précédente et je vais me centrer sur un programme qu'on a lancé l'année dernière. L'année dernière, le Conseil a approuvé la conformité contractuelle pour établir une méthodologie et une approche de conformité en 3 ans pour auditer toutes les parties contractées qui sont dans l'industrie des noms de domaine à présent. La portée était énorme parce qu'on n'avait jamais fait ce genre d'audit à l'ICANN. Cela n'existe pas dans l'industrie. Donc, en fait, il nous fallait établir une portée qui se centre sur le risque du public. Donc, les dispositions qui étaient dans la portée du contrat et qui étaient liées à la disposition des audits a été commencé. On a fait la première année l'année dernière. L'année dernière, on a fait 317 bureaux d'enregistrement et 6 TLD dans nos audits. On a eu 99% de conformité comme résultat. Pour la deuxième année, on a commencé l'année dernière. Vous voyez ici le chronogramme et les phases qu'il faudra traverser, mais je vais passer à cette diapo ici pour partager avec vous la portée de la deuxième année. Donc, on a encore une fois sélectionné les bureaux d'enregistrement qui restaient et cette liste de la droite vous dit combien de bureaux d'enregistrement de chaque pays ont été sélectionnés et sont dans la portée de l'audit de la deuxième année. Sur la gauche, vous voyez les numéros. Donc, on a aussi sélectionné 317 bureaux d'enregistrement. Et juste en dessous de ça, vous voyez qu'il y a ici une file qui dit le déploiement de la première année au total. C'est-à-dire qu'ici, le déploiement consiste à 5 bureaux d'enregistrement qui, dans la première année, ont été trouvés non conformes et qui ont dû présenter un plan de remédiation. Beaucoup de bureaux d'enregistrement ont exécuté et complété leur plan de rémédiation dans la première année. Les 5 avaient des activités différentes, de complexités différentes. Et pour certaines raisons, ça n'a pas été complet, mais le plan était clair. Ils avaient bien fourni leur programme, mais l'année était fermée. Et donc, on les a remis dans la sélection de la deuxième année. On va refaire leur audit. Donc, dans cette deuxième année, on va pouvoir valider que tout ce qu'ils ont remédié est conforme et cohérent avec leur accord avec l'ICANN pour servir à la communauté. Pour les bureaux d'enregistrement, c'est la taille de la sélection, ce que vous avez en dessous. Mais ce n'est pas tous les bureaux d'enregistrement qui doivent être audités. Et les registres, les opérateurs de registres sont toujours audités. Moi, je viens de l'industrie, j'aime bien les audits. Mais même avant d'entrer dans la conformité contractuelle, l'audit nous donne une occasion d'améliorer, de prendre notre budget et de mieux travailler. Donc, la collaboration avec les parties contractées a été positive, en fait. Cette diapo est un exercice d'audit interne qui est fait par nous-mêmes, sur nous-mêmes. Donc, la conformité contractuelle a fait un exercice pour faire son propre audit. On nous dit, comment pouvez-vous faire cela? La cohérence sur notre équipe est très claire. On a un gérant d'audit et de risque qui se centre 100% sur cette fonction. Et c'est un gérant qui ne travaille pas dans les activités quotidiennes de la conformité. Donc on n'a pas un conflit d'intérêts. Il se centre spécifiquement sur la conformité contractuelle, le risque et l'audit. Il gère le programme de cette deuxième année au complet, le programme dans son total aussi. Mais on a une occasion, comme vous vous souviendrez sans doute, il y a un bon moment, on a consolidé nos processus, nos outils, nos procédures, tout a été documenté. Et donc on voulait prendre un auto-exercice de auto-contrôle. Donc on s'est fait un audit, on a créé 45 contrôles qui se centraient sur le processus, des procédures de système, sur la communication. Donc les contrôles étaient variés. Des gens, des processus et des outils étaient audités. Et ce gérant de risque et d'audit a intervenu, il a sélectionné le personnel et nous a fait un audit. Sur ces 45 contrôles total, il a identifié 8 domaines avec lesquels on n'était pas en conformité. Donc les exceptions ont été notées. Ils ont été divisés en 2 secteurs, donc le système et les procédures. À ce qu'on s'attendait d'ailleurs, on venait de compléter la consolidation de notre système, même pas un mois avant. Donc c'est fou de faire un audit si rapidement, mais on voulait être proactif, sachant que quels étaient les efforts pour 2014. Donc l'équipe de conformité a corrigé immédiatement ces procédures, parce que c'était critique pour nous. On a complété cela en août. La mise à jour du logiciel a été corrigée et essayée, testée, et elle sera publiée en décembre 2014. On a un plan pour faire un deuxième audit interne en mai. Comme vous savez, l'ICANN travaille selon un calendrier d'année fiscale. Et notre dernier audit a été fait en juillet. On va faire le deuxième audit interne en mai et on va rapporter à la communauté sur cette activité. Alors, on parle de tous ces processus de consolidation et tous ces outils. Mais comment mesurer nos progrès et que faire par rapport à eux? Je vous montre ici cette diapo. Mais je vais aussi le partager dans le forum de demain sur l'amélioration du WHOIS. Mais ce que je veux vous montrer maintenant est comment on fait des progrès et ce qu'on fait lorsqu'on met en œuvre toutes ces fonctions, tous ces processus. En premier lieu, on s'est rendu compte que ce n'est pas simplement le volume de WHOIS. On aura toujours un volume d'inexactitude de WHOIS. C'est la plate numéro 1 entre les nôtres. Mais on s'est rendu compte qu'on voulait mesurer notre débit de succès, à quel point on avait réussi. On avait des outils fragmentés, des processus incohérents, un manque de documentation, mais on voulait commencer à mesurer. On l'a fait en septembre 2012, parce que tout était très divisé. Mais on a commencé à rassembler les données dans des tableurs, ce qui était manuel, mais il fallait faire des petits pas. Donc on voulait commencer avec le processus, qui était très différent pour les différents membres de l'équipe de conformité contractuelle. Et l'outil qu'on avait à l'époque différait beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui. Mais je peux simplement parler de 2 points. On voulait mesurer et que ce soit simple. Donc on a commencé avec un processus de cohérence. Et ce qu'on vous montre ici sont 2 colonnes. J'espère que vous pourrez venir à la séance de demain. Mais au cas où, je voulais vous montrer cela. La première colonne est le temps moyen des jours commerciaux entre le moment où l'équipe de conformité contractuelle reçoit une plainte, la valide, l'ouvre et l'envoie au bureau d'enregistrement. La colonne jaune montre un cycle de vie complet d'une plainte entre le moment où elle est reçue jusqu'à la fin où elle est fermée. Donc ces plaintes suivent ce processus en colonne jaune. Là où il nous manquait toujours l'automatisation et la cohérence, on commençait là, on a eu un pic ici parce qu'on a eu beaucoup de volume. Et dans ce cadre, on a créé ce qu'on appelle la chambre numéro 1. C'était là où on prenait le déjeuner. C'était la bonne occasion de réunir toute l'équipe de conformité pour voir comment traiter les inexactitudes, les politiques et les plaintes reçues des bureaux d'enregistrement. Et ça nous a donné l'occasion non seulement de nous former sur le processus, ce qui a atteint l'automatisation complète en mars. C'était un processus manuel jusqu'à mars. Mais en mars, on a déployé le premier type de plainte dans le système consolidé et voyez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a une meilleure visibilité des données, on a un processus automatique, cohérent, on peut le suivre. Il va être face à vous dans un seul secteur, dans un seul bureau. Donc vous voyez maintenant que du moment où on reçoit la plainte jusqu'au point de la fermeture, on a réduit la période pour davantage de cohérence. Sur les paramètres, on a déjà commencé avec ces diapos. Hein.
Another thing we rolled.
Une chose que nous avons présentée, mis en œuvre récemment avec l'équipe de conformité, c'est ce que nous appelons les enquêtes de situation. Si vous avez regardé notre mise à jour mensuelle dans laquelle nous essayons de présenter nos résultats trimestriels, pourquoi nous avons besoin de ce type d'enquête? Lorsque nous fournissons un service, puisque c'est ce que nous faisons, nous devons revenir et valider le niveau de satisfaction que non seulement les rapporteurs, mais aussi les plaignants ressentent, mais aussi les parties contractantes. Et donc, la conformité à la fin d'une plainte envoie un sondage avec 5 questions qui se trouvent dans la notification, dans l'avis que nous envoyons. Ce sondage est envoyé aux parties contractantes et à la personne qui a réalisé donc la plainte et nous lui posons ces 5 questions. La dernière question qui est dans le sondage est: comment avez-vous ressenti votre expérience concernant la plainte? Ce sondage et les résultats de ce sondage sont ici et ils varient en fonction de la collaboration que vous avez avec l'équipe de plainte, si vous présentez la plainte, comment vous focalisez sur la partie du système, sur la satisfaction générale, etc. Nous avons ici l'occasion de faire quelque chose qui n'est pas simple parce qu'il y a un grand défi concernant. D'abord parce qu'on a un taux de réponse qui est plutôt bas. Donc, comment analyser les résultats de ce sondage? Nous sommes en train de voir comment nous pouvons augmenter ce taux de sondage, ce taux de résultat. Mais en plus, un sondage implique que nous devons voir ce qu'il faut améliorer dans ce sondage. Donc, nous avons mis en place un gros effort pour mettre en place un système de questions les plus fréquemment posées. Nous avons amélioré notre site Internet pour mesurer l'impact de tout cela. Nous n'avons pas beaucoup de trafic concernant les questions et les réponses. Donc, nous avons repris ce que nous avions. Nous avons fait un gros effort pour le rénover, le rendre plus agréable pour les utilisateurs, le traduire en anglais. Et nous avons mesuré ce que nous appelons les nombres de personnes qui ont participé, qui sont rentrées sur la page de plainte. Ici, nous avons reçu donc ces données de l'équipe donc qui travaille sur l'Internet et l'échantillon montre que 80% des utilisateurs sont uniques. Donc, nous avons un certain trafic. Ce qui nous a aussi aidé, c'est que nous avons constaté qu'il y avait une réduction dans certaines plaintes parce que les gens sont plus donc au courant de ce qu'ils doivent faire. Dans certains cas, en bas, Fabio a dit il y a une ou deux réunions que myicann.org avait maintenant une partie qui concernait les paramètres de plainte. Donc nous avons essayé de voir ici d'analyser le trafic sur cette page aussi pour voir si les gens l'utilisaient et les paramètres sur myicann.com nous ont donné une série de questions, de commentaires, de suggestions des gens qui participent dans le domaine des développements de politique ou dans les groupes de travail. Et nous avons donc recueilli une série de données. Si vous regardez sur MyIcon, vous allez voir beaucoup de données. Mais comment nous avons trié ces données, comment nous avons analysé et comment mesurer les occasions que nous avons ici d'améliorer notre travail. Ici, sur cette diapo, vous voyez, cette diapo donc montre les cinq régions d'ICANN et c'est un rapport concernant donc la dernière réunion d'ICANN jusqu'à aujourd'hui, toute cette période. Nous avons capturé le volume de domaines qui existaient pour cette, le nombre de domaines qui existaient pour cette région, le nombre de bureaux d'enregistrement pour chaque région et nous avons regardé le nombre de plaintes qui surgissaient de cette région et nous avons fait un pourcentage pour savoir quelle était donc la quantité de plaintes qu'on avait dans chaque région. On a fait ce qu'on appelle une mesure normalisée. Ce n'est pas juste de regarder seulement en fonction du volume de plaintes. Nous avons un grand nombre de grands des bureaux d'enregistrement et de petits enregistrements. Donc les volumes, dans ce cas-là, ne sont pas vraiment une bonne donnée pour nous, pour qu'on puisse vraiment analyser ce qui se passe dans chaque région et faire un effort pour voir où est-ce que nous devons nous focaliser. Par exemple, nous avons constaté, nous avons fait de gros efforts dans la région de l'Asie et du Pacifique au cours de ce dernier trimestre. Et ce trimestre, nous allons nous focaliser sur l'Amérique latine parce que on regarde donc le pourcentage de bureaux d'enregistrement qui ont donc avec des plaintes pour chaque région. J'aimerais vous dire qu'on peut mesurer cela et présenter cela, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On est en train d'essayer de voir si on peut fournir ces données ensuite. Ce que nous constatons, c'est qu'une meilleure compréhension, parce que les facteurs les plus communs dans ces deux régions que nous avons analysées sont le manque d'interprétation ou le manque de compréhension des processus et le manque de suivi aussi. Donc, notre activité pour ces deux régions se focalise sur la compréhension. Lorsque vous recevez un avis, comment répondre à cet avis? Quand répondre à cet avis? Que fournir? Donc, nous sommes aussi en train de travailler avec notre personnel puisque nous avons davantage de présence maintenant et nous pouvons couvrir les zones donc de temporaires de chaque les fuseaux horaires de chaque zone et donc nous envoyons nos avis. Des fois nous envoyons les avis dans une autre langue. Vous allez toujours les recevoir en anglais mais on ajoute aussi une autre langue. Par exemple vous les aurez en anglais et en mandarin, en anglais et en espagnol. La raison pour laquelle nous essayons de conserver ces deux langues, c'est parce que l'équipe de conformité d'ICANN est mondiale et nous voulons essayer de commencer à fournir un service global qui permet à tous les membres des équipes, non seulement ceux qui sont localisés dans la région et qui parlent cette langue, mais aussi ceux qui travaillent en anglais. Donc, nous sommes focalisés sur ces deux régions pour essayer de mettre l'accent sur la réponse, comment fournir cette réponse, dans quelle langue, quelles sont les données importantes à fournir, et comment et pourquoi certaines personnes ne comprennent pas exactement correctement leurs obligations. Ici, vous voyez, sur cette diapo, on peut commencer à voir les tendances qui existent. Ici, vous voyez les tendances des plaintes des bureaux d'enregistrement pour chaque donc région. Donc, au mois d'août, nous avons eu une tendance supérieure, un volume de tendance supérieure, mais on a aussi une réduction de 1,5 qui est due au système de questions et de réponses que nous avons présenté sur notre site Internet. On a vu qu'on avait un trafic important dans ce domaine, ce qui a fait que les questions des clients étaient déjà répondues dans le système de FAQ, de questions et de réponses. Et donc, nous voyons au mois d'octobre une petite augmentation de volume et nous pouvons anticiper beaucoup plus les plaintes que nous allons recevoir parce que vous avez entendu que Greg vous a dit que non seulement nous pouvons recevoir des plaintes d'inexactitude de WHOIS, comme des plaintes uniques, nous pouvons aussi recevoir des plaintes multiples, en même temps. Et maintenant, nous avons ce que nous appelons les plaintes massives. Donc, nous pensons que nous allons recevoir davantage de volume bientôt et nous vous dirons comment cela se traduit pour nous. Je voulais vous montrer aussi cette diapo. Ici, vous voyez l'ensemble du processus que nous avons mis en place. Comment mesurer le succès du procès? Le succès de ce processus est lié à ce que nous appelons ici, à gauche, le TAT, qui veut dire temps de
renouvellement, hein, ou tant de résolutions. Tant de résolutions, c'est important. C'est important pour vous en tant que membre de la communauté et c'est important pour les bureaux d'enregistrement, c'est important pour notre équipe de conformité. Lorsque vous présentez une plainte, c'est comme quand vous allez au restaurant, vous voulez manger votre repas, vous voulez voir votre assiette pleine. Quand vous présentez une plainte, vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez recevoir une réponse, une résolution et une fin, une conclusion à votre plainte. Hein. Donc, les bureaux d'enregistrement, hein, et nous ont un problème concernant l'inexactitude des données WHOIS. Le bureau d'enregistrement doit faire des recherches, doit savoir et doit corriger ces inexactitudes des données WHOIS. Et cette obligation est donnée et pour donc et 15 jours. Les autres obligations concernant la partie contractuelle et envers la partie contractante est ce que nous appelons un temps de 5 journées de travail. Hein. Donc, on a un premier avis, un deuxième avis, un troisième avis. C'est ce que nous appelons la prévention ou la collaboration ou la période de collaboration ou la résolution informelle. La seule chose que la communauté va voir à ce moment-là, c'est le volume en question de temps. Vous n'allez jamais savoir qui a le plus gros volume. Vous n'allez pas savoir non plus qui a le plus grand nombre de plaintes ici parce que c'est une occasion pour ICANN de parler, d'essayer de résoudre avec la partie contractante le problème. Bien. Cela finit par une résolution formelle, hein, lorsque la partie contractante n'a pas fourni suffisamment d'informations ou n'a pas répondu. À ce moment-là, on doit mettre en place, hein, ce que vous voyez sur la droite du tableau, hein, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'appliquer le contrat, hein, mais on ne peut pas seulement passer à la partie d'application. Hein, il faut essayer de résoudre le problème d'abord. Donc, nous allons donner l'occasion à l'autre partie, le bénéfice du doute à l'autre partie pour résoudre le problème. Et à ce moment-là, en me basant sur mon expérience chez ICANN, beaucoup de problèmes, comme vous le voyez, non seulement pour le volume de plaintes qui apparaît ici. Hein, lorsque j'ai commencé, ce processus n'existait pas. Hein. Notre objectif ici est d'essayer de voir si nous pouvons éliminer ce troisième avis. Voilà, ça c'est mon but, hein, final. Hein, ce n'est pas juste de mettre cet objectif ici, de le présenter ici à mon équipe parce qu'on a déjà trop d'objectifs, mais j'aimerais que ce soit notre objectif final. Hein. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela signifie que non seulement ICANN, mais aussi les parties contractantes et la communauté parviennent à résoudre des problèmes au premier ou au deuxième avis, hein, sans être obligés d'appliquer des punitions. Hein. Donc, au premier avis, on va avoir un nombre de réponses important. Hein. Notre contrôle va commencer lorsque nous allons nous assurer que nous avons une réponse du bureau d'enregistrement, que nous avons les bonnes données que nous lui avons demandées, qu'il nous a envoyées, qu'il a révisé ces données, qu'il les a validées. Et toutes ces données que nous allons capturer au cours de cette résolution informelle, si le bureau d'enregistrement a violé le contrat, la chronologie va être fournie. Et donc, la communauté saura. Et si l'on regarde sur notre site Internet, en dessous des avis, si vous regardez les avis de violation, de non-respect de contrat, depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir une approche, hein, vraiment très cohérente, hein, par page. Hein, il y a des détails concernant ce qui a été fait, mais la partie la plus importante qui est vraiment en cohérence avec toutes les violations, tous les non-respects de contrat, c'est la chronologie. On va savoir quand est-ce que le premier avis a été envoyé, à qui, quand est-ce que le deuxième avis a été envoyé, quelle était la date, hein, et à qui a été envoyé ce deuxième avis. Et pour le deuxième avis, l'équipe de conformité va attendre quelques jours. Et si on n'entend rien de ce bureau d'enregistrement ou du registrant, on va l'appeler pendant leurs horaires de travail. Hein. Donc, on va essayer de pouvoir adapter notre travail pour commencer à appeler le bureau d'enregistrement. Hein. Nous essayons de connaître le numéro. On essaye à ce moment-là de rapporter à qui on a téléphoné et quel était le numéro de téléphone auquel on a appelé. Hein. Et tout cela va figurer. Hein. Si un bureau d'enregistrement fait attention, ce type de choses ne vont jamais apparaître. Ensuite, la date de clôture, on vous a dit, et le taux de clôture, on vous a parlé du nombre donc de plaintes et qui était donc conclu. Nous avons perdu notre connectivité. Bien. Bien. Excusez-nous pour cette interruption. Donc, vous avez entendu, on a parlé du taux de clôture d'affaires. Vous voyez sur la diapo précédente, nous avons montré le volume que nous avions, le premier, deuxième avis. Lorsque nous avons commencé cette année, nous avions un objectif interne. Une personne ici nous avait demandé, nous avait posé des questions sur le KPIs. Hein. Nous devons commencer à mettre en place ce KPIs, Key Performance Indicator, indicateur de performance clé. Et ces données sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de travailler de façon plus efficiente. Hein. Nous avons mis donc un objectif de 55% que nous avons un petit peu augmenté parce que nous avons maintenant davantage de formation. Nous avons de nouveaux personnels, donc nous avons besoin de mettre un objectif que nous pourrons et respecter, que nous pourrons atteindre parce que notre personnel, donc, il y a eu des changements dans notre personnel. Donc, ces objectifs comprennent plusieurs facteurs, le volume, le traitement fait par le personnel et le temps de renouvellement. Maintenant, la comparaison entre la mesure et la conformité. Je vous ai parlé de temps de clôture, d'amélioration, de programme d'audit annuel. Et maintenant, le paramètre que nous avons établi pour notre succès pour l'année fiscale 2014 est lié à ces cinq points que je vous présente ici. Vous savez, il est très important, hein, et je vous le dis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous mesurons notre conformité, hein, en nous basant sur donc les différents aspects, la procédure, notre capacité à traiter les plaintes, etc. Ce n'est pas seulement un fait que le contrat soit signé. Il y a toute une série de choses qui nous mènent, hein, donc à ce contrat. Identifier les fournitures que nous avons besoin de publier pour que vous puissiez présenter vos plaintes ou puissiez remplir certains rapports. Hein. Nous devons faire une surveillance interne. Qu'est-ce que nous devons mesurer? Qu'est-ce que nous devons rapporter? Et créer des procédures, créer des questions et des réponses. Donc, notre capacité donc à répondre à cette conformité est un travail constant. Vous m'avez entendu, hein, au mois de juin 2014, notre taux de succès sera d'avoir donc toutes ces 30 types de plaintes ou de rapports de plaintes créés, évalués, élaborés, hein, de manière graduelle. Hein. Nous devons travailler de manière graduelle, bien sûr. Donc, nous allons commencer à les déployer et les mesures de succès vont répondre donc à tous ces aspects. Les facteurs de succès, donc aussi, nous avons un programme d'audit de 2 ans par programme que nous allons travailler en différentes phases. Notre taux de succès pour les audits internes, nous voulons passer de 20% à un taux de succès de clôture de 10%. Je veux aussi rappeler à tout le monde que nous avons fait de gros efforts, nous avons passé beaucoup de temps à écouter la communauté pour voir comment améliorer notre site Internet, comment rendre nos informations plus utiles. Et donc, rendez-vous sur notre site Internet sur ICANN.org. Nous avons aussi une mise à jour mensuelle dans les 6 langues des Nations Unies. Et en outre, les questions et les réponses, les questions les plus fréquemment posées, hein, avant de soumettre une plainte, cliquez sur ces questions et ces réponses les plus fréquemment posées qui sont donc fournies dans les 6 langues des Nations Unies et qui pourront vous aider à résoudre certains problèmes. Nous avons fourni cela et nous voulons être sûrs que la communauté aura accès à ces données. Donc nous essayons d'en parler parce que nous voyons qu'il y a un certain trafic, mais je pense que nous pouvons augmenter ce taux de trafic sur notre site. Et je conclurai donc ici avec notre programme pour cette réunion de ce matin et notre présentation de ce matin, donc tous les points que j'ai abordés. Et maintenant, si vous avez des questions, prenez la parole. Et d'abord, s'il vous plaît, identifiez-vous. Et Jane Cute, combien de personnes vous avez dans votre équipe, qui travaille avec vous? Nous avons actuellement 18 personnes qui travaillent et nous avons aussi des personnes que nous avons engagées et qui nous soutiennent. Bravo pour votre présentation, c'était très bon. Maggie Serrad reprend la parole. Nous avons créé cette présentation au niveau de notre équipe. Nous avons une équipe légale dans mon équipe qui ne fonctionne pas dans la partie de... qui travaille au niveau de la révision des plaintes. Parce que beaucoup de personnes avec qui nous travaillons, de l'autre côté, hein, que ce soit des parties contractantes ou des rapporteurs de plaintes, travaillent dans la partie légale. Hein. Donc, parce que nous avons besoin d'un aspect légal pour analyser tout ça, mais nous avons aussi une équipe qui travaille dans le domaine du business et de la technologie et de l'expérience concernant les plaintes. Hein. Donc, nous travaillons vraiment dans le domaine des contrats. Merci. Oui, allez-y. Maggie, je suis Evan Leibovitch. Je suis le vice-président du comité at large. Et dans la diapo que vous avez présentée, vous avez montré un plan de travail de juillet à octobre. Vous avez dit qu'il y avait 25 points qui allaient être ici. Voilà, c'est cela. Alors, que s'est-il passé pendant donc cette brèche, hein? Il y a 24 qui ont été donc présentés et seulement 11 qui donc sont passés à la partie de l'infraction, hein, du volume. Alors, réponse. Nous avons envoyé réponse de Greg Dibias, hein? Nous avons envoyé un avis. Ensuite, nous sommes passés à la partie suivante qui s'appelle la partie d'application. Ça ne veut pas dire que un avis de violation, de non-respect de contrat a commencé. Ça veut dire qu'il faut commencer à regarder, à analyser les réponses du bureau d'enregistrement ou du registrant pour voir si ce problème est fermé ou pas. Il s'agit seulement d'une étape avant que le problème donc soit considéré comme un non-respect de contrat ou soit conclu. Evan Leibovitch, donc ça veut dire que les autres ont été fermés. J'ai une autre question, dit Evan Leibovitch. J'espère que vous pensez que c'est pas hors de portée de votre présentation, mais puisque vous présentez vraiment un aspect important de ce que fait ICANN, est-ce que vous avez des données sur les plaintes qui arrivent qui ne sont pas valides pour ce que vous devez faire, c'est-à-dire quelqu'un qui présente une plainte et cela va au-delà de ce que vous pouvez faire pour une question parce que ça n'a rien à voir avec le type de plainte que vous pouvez gérer. Est-ce que à ce moment-là c'est votre problème ou parce que ce type de statistiques sont nécessaires pour nous aider à travailler pour que ICANN commence à se focaliser sur d'autres choses. Greg Dibias répond, oui, cela arrive. Hein, ce sont des plaintes qui sont fermées à ce moment-là. Il y a différentes raisons, hein, en fonction de type de plainte. Il y a des plaintes qui ne sont pas du type, qui sont de type générique. Il y a des questions, des aspects qui concernent la partie de renouvellement et autres. Et donc, actuellement, nous essayons d'être capables. Hein, depuis quelques mois, nous essayons de voir comment nous pouvons avoir des paramètres sur les raisons pour lesquelles nous allons clore une plainte spécifique. Et Maggie Serrat reprend la parole. Je voudrais reprendre ici. Et Evan Lebovitch reprend la parole. C'est juste pour voir si vous collectez ce genre d'informations. Ce que je voudrais ajouter sur ce que Carlos vous a dit, c'est que notre équipe a fait a essayé d'identifier et de définir ce que nous appelons les résultats. Et vous savez que nous travaillons dans un monde qui est un peu ennuyeux, hein, en noir et blanc. Hein. Mais nous, ça nous intéresse parce que c'est vraiment plus simple de comprendre et de mettre en place des processus pour soutenir tout cela. Donc l'exercice que nous avons réalisé, hein, nous avons mis plusieurs semaines à y arriver, c'est de collecter, de recueillir toutes les différents systèmes. Hein. Nous voulons proposer une approche standardisée, une définition standardisée. Et avant de travailler à ICANN, hein, j'avais des codes de 10 résolutions. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus simple ici. Donc ici, nous avons un système de codes de résolution, hein, qui permet... Ce que nous voulons faire, c'est de nous assurer que nous avons un message cohérent. Hein, vous présentez une comparaison bien claire d'une chose qui soit en relation avec l'autre. Donc, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est que nous avons toujours fait un reporting à la communauté sur les plaintes qui étaient hors de notre portée. Et si vous vous référez aux autres présentations des autres réunions d'ICANN, vous allez voir que c'était dans une catégorie qu'on appelait les plaintes de la clientèle, qui donc sont en relation avec toutes les catégories que Carlos vous a présentées. La raison pour laquelle je représente de nouveau cette diapo, la diapo 22, hein, la raison pour laquelle je vous présente à nouveau cette diapo 22, et c'est que j'ai partagé avec vous, je vous ai dit, hein, quelles étaient les questions les plus fréquemment posées et que ces questions montraient qu'on était parvenu à réduire le volume des plaintes. Donc nous avons voulu mesurer le succès de ces questions et de ces réponses. Nous avons commencé à donc former ces questions les plus fréquemment posées autour des plaintes, en parler, présenter cela à propos des plaintes qui étaient hors de portée. Hein, et donc les gens vont pouvoir maintenant savoir que ces plaintes qu'ils vont présenter sont hors de portée. Hein. Et à ce moment-là, nous pouvons réduire ce nombre de plaintes hors de portée. Je voudrais reprendre sur ce point, dit Evan Lebovitch. Est-ce qu'il y a une façon pour quelqu'un de dire... Et est-ce que cela signifie que vous allez envoyer les gens qui présentent des plaintes hors de votre portée, vous allez leur dire, s'il vous plaît, ici, vous allez trouver une réponse à votre problème en lisant ces questions et ces réponses fréquemment posées. Hein. Je pense que les gens doivent savoir qu'il y a à cet endroit une réponse à leurs soucis. Hein. Même si vous pouvez pas les aider, vous les envoyez donc sur cette partie du site où il y a les questions et les réponses. Oui, dit Maggie Serrat. Si vous regardez sur le site d'ICANN, hein, la partie des questions et des réponses et des présentations de plaintes, vous allez voir comment nous avons réglé ces problèmes, Evan. Par exemple, nous avons, en ce qui concerne la conformité des CCTLD, cela est présenté en différentes langues. Vous avez le guide, hein, qui vous donne ici une liste et que faire. Donc, nous avons tenu compte de tout cela, oui, oui. Paul McGrady, je suis un partenaire de Winston & Strong et je suis aussi l'auteur du traité de nom de domaine. Je suis le président du sous-comité de la gouvernance d'Internet pour donc l'association de marques commerciales internationales. Il y a quelques années, lorsque ICANN ne s'occupait pas des plaintes, et lorsque ICANN a commencé à travailler sur les plaintes, j'ai eu l'occasion de participé aux réunions et j'ai vu des mouvements qui étaient organisés et qui essayaient d'encourager ICANN de travailler dans ce sens. Je dois dire que c'est la première fois que je ne vois pas de mouvement ici vers l'avant. Nous avons beaucoup de données, c'est vrai, mais du point de vue de l'utilisateur final, les processus, à mon avis, il y a peut-être des données ici, mais je dirais que j'ai l'impression, je m'excuse, mais j'ai l'impression que le bureau d'enregistrement et les IRS ont un système qui, à mon avis, me donne l'impression qu'on tourne en rond. J'ai essayé de voir le système de l'utilisateur pour voir où est-ce qu'il y avait des questions concernant les plaintes et l'UDRP, le problème de l'UDRP, le transfert d'IDN, le problème de plainte et de conformité. Et au milieu, je pense que le personnel a essayé de fermer cette plainte. J'ai essayé de voir comment travailler avec un bureau d'enregistrement en particulier qui travaillait sur des questions de passeport pour donner un code d'autorisation. Ils n'ont pas délivré un code d'autorisation pour donc donner les contacts de l'email. Donc maintenant, nous avons pour le client qui essaye de mettre en place ce nom de domaine, il a dû passer au système de plainte et voir dans quelle juridiction il devait se trouver ce nom de domaine. Donc tout ce que nous voyons, c'est que c'est une difficulté après l'autre. J'aimerais vraiment essayer de pouvoir comprendre ce processus de formation d'abord, parce que j'ai une sensation vraiment et que ou bien les gens sont formés sur donc la façon dont fonctionnent ces politiques tous ensemble, et finalement à la fin de la plainte UDRP, si on est transféré, donc ou s'il y a une autre alternative, les gens, et c'est ce que je ne veux pas qu'il se passe, et c'est ce qui se passe, hélas, lorsque les organisations grandissent et créent des systèmes et ont un tas de codes de résolution, les gens essayent de conclure le travail. C'est leur motivation principale. Si on peut résoudre cela, on met un tampon résolu, on augmente le nombre d'affaires résolues et c'est bon. Voilà, donc... Pour vous, ça fonctionne, mais moi, je pense que toutes ces choses sont très bien, tous ces paramètres sont parfaits, mais je crois que l'élément humain n'existe plus et je pense que le désir d'aider a disparu. Et donc, je vous demanderai de reculer un petit peu, de laisser un petit peu les beaux tableaux, les chiffres, etc. et de vous demander si vraiment vous aidez les gens, si vraiment vous êtes en train d'atteindre votre objectif. En ce qui concerne le sondage, je vous demanderai aussi de regarder un petit peu, de prendre un petit peu de distance et de regarder un petit peu si vous avez une approche d'expert sur les gens qui ne sont pas satisfaits du processus, qui ont un problème, qui ne sont pas satisfaits non plus du résultat. Si vous pouvez répondre, ces personnes qui attendent des réponses de votre part, qui attendent une résolution rapide de votre part et qui sont finalement fatiguées, les personnes qui essayent d'utiliser ce système, qui sont lassées. Et donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir vraiment le nombre, un peu plus que le nombre de gens et qui ne sont pas satisfaits du système. Des fois, les sondages sont importants, mais il y a d'autres choses aussi qui comptent. Vous avez dit quelque chose qui était intéressant, qu'on ne peut pas contrôler le nombre de plaintes que vous recevez. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Cela me mène après cela à ma question finale et qui est, vous ne pouvez pas contrôler le nombre de plaintes en publiant les données des bureaux d'enregistrement. Vous dites que vous ne le faites pas. Et je serais curieuse de savoir, et quelle est la justification, pourquoi est-ce que vous ne publiez pas ces données spécifiques concernant les avis de non-respect de contrat et pour les bureaux d'enregistrement? Ce sont des informations qui sont importantes pour la protection des consommateurs, pour les registrants, pour les bureaux d'enregistrement. Je pense qu'il n'y a pas une question de confidentialité ici. ICANN reçoit beaucoup de critiques. Et on dit que c'est une association de ces partie contractante. Et de l'extérieur, on a l'impression que vous protégez quelque chose. Si vous voulez jouer ce rôle, je pense qu'il faudrait trouver le nombre de plaintes qui existent réellement. Sinon, et si vous ne savez pas combien il y a de plaintes, votre travail manque de substance. Hein. Si on achète des voitures, par exemple, même si on se plaint de la qualité de la Toyota, hein, il faut savoir quel est le problème et on va trouver des articles sur le problème de la Toyota, par exemple. Hein. Donc, je voudrais savoir quelle est la justification de la part d'ICANN de ne pas publier le nombre de plaintes que vous recevez concernant les bureaux d'enregistrement, parce que je pense que c'est très important. Et c'est ce qui pose le plus grand nombre de problèmes pour nous et pour vous.
Oui, donnez-moi un instant. Maggie Sarad, j'ai une question à poser ici à mes collègues pour confirmer quelque chose.
OK.
Maggie Sarad qui reprend la parole. Je voulais juste confirmer. Je vous remercie de ces trois points que vous avez, sur lesquels vous avez attiré mon attention. Il va y avoir des commentaires sur lesquels je vais devoir faire un suivi avec vous à titre personnel. Le premier, par rapport à que vous ne voyez pas des progrès, je ne suis pas d'accord, mais il ne s'agit pas d'un accord. Mais le principal est que c'est votre point de vue, parce que vous ne recevez pas un service et ça porte sur une plainte spécifique à votre sujet. Oui, il dit, et ce n'est pas pour une plainte particulière. Je voudrais finir de répondre, dit Maggie. Il dit, oui, je voulais juste dire que oui, je confirme. Ce que j'ai dit était anecdotique. Et j'espère pas que vous soyez d'accord. Comme vous dites, c'est mon point de vue. Et il se base sur un suivi de près du département de conformité contractuelle. Bien, mon tour, dit Maggie Sohan. J'ai toujours dit à mon équipe qu'il y a une perception et cette perception a un degré de réalité. Donc, je vous remercie d'attirer mon attention sur ce processus comme vous le décrivez. Donc, je vais l'aborder internement et je ferai une analyse de cause pour voir le statut de cette instance spécifique. Ce qui s'est passé le long du processus, où sont les occasions de formation, comme vous disiez, ou alors d'améliorer la communication, et on vous répondra. Vous allez recevoir une réponse. Je serai copiée sur cet email. J'ai Carlos ici. Mais si vous nous permettez un peu de temps, je vous promets qu'on vous répondra à cela. Et je m'assurerai que ce sera sur mon calendrier. J'aborderai pas le sondage. D'habitude, on a des sensations rencontrées par rapport au sondage. On en reçoit beaucoup. Mais je veux souligner quelque chose par rapport au sondage Paul. On reçoit des qualifications et des commentaires. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui spécialise aux paramètres pour mesurer la performance, pour rapporter les années extensives d'opérations et de services aux clients. Donc, on fait attention non seulement à la note qu'on nous donne, mais aussi au feedback. Et on cherche là des opportunités d'amélioration ou alors pour contacter la personne qui a présenté cela pour améliorer la clarté. Donc, on attache beaucoup d'importance à cela. Par rapport au dernier commentaire, concernant mes commentaires, on n'a pas contrôle sur le numéro de plainte et vous disiez que ce pourrait être résolu si la conformité publiait les données des titulaires des noms de domaine. Je vais aborder cela. Je ne sais pas comment cela a trait, mais on publie beaucoup de données. Et si vous êtes familier avec notre processus de conformité que l'on peut publier, mais que je vais montrer ici sur l'écran aussi. Vous voyez un processus qu'on a développé avec la communauté et dans ce processus, on s'est unis en tant que communauté. J'ai conduit ces séances dans tous les domaines et j'ai demandé à avoir le feedback de deux réunions avant de finir et institutionnaliser cela. Je m'excuse, je vois qu'on ne voit pas ma diapo complète, mais j'ai accédé au site web de participants à distance sur le site de conformité dans la partie de process. Et on a vu le processus de conformité général. Il doit y avoir une occasion, indépendamment de votre secteur. Il faut que vous permettiez une résolution informelle. C'est entre deux parties. Il ne s'agit pas du manque de transparence. C'est la capacité de dire si c'est ou pas une plainte valide. En tout cas, vous voulez avoir l'occasion de travailler avec les parties contractées pour leur donner l'occasion de résoudre cela. Vous ne pouvez pas publier automatiquement tout ce que vous avez. Cela dit, les parties contractantes qui atteignent l'étape d'application de la loi, c'est sérieux parce qu'ils ont manqué au contrat. Donc, comme je disais avant, si vous allez voir les notifications d'empreinte, on vous donne la technologie et tout ce qui mène à l'application de la loi. Donc oui, on ne publie pas selon cela pendant la période informelle, on vous donne l'occasion de le résoudre et les pourcentages de résolution sont énormes. Je reviens encore une fois et voilà pourquoi on regarde les métriques. Parce que si on ne voyait pas ces numéros, ces pourcentages de résolution, le volume variera selon les bureaux d'enregistrement, selon leur taille. Donc, il n'est pas juste de publier simplement le volume. Ça ne dit pas tout. Et au moment où ça atteint l'application, tout est visible à la communauté sur ce qui a mené à cette empreinte et pourquoi. Je vous comprends, dit Paul. Ça ne répond pas à ma question, mais en tout cas, merci. Parce que ma question était... Quelle était la justification pour protéger les données alors qu'elles ont le potentiel d'être utiles pour les consommateurs et pour leurs choix? Et je n'ai pas entendu une justification pour cela. Vous travaillez toujours en silence, en cachette, avec la partie contractée. Et je pense que ce n'est pas une justification. Et ce n'est peut-être pas vrai dans l'industrie des noms de domaine. Ça l'est dans cette industrie, mais dans des autres industries, il est faux de dire qu'il n'y a pas de données publiées par les régulateurs. Il y a des données de toutes sortes. Et je comprends ce que vous dites. J'apprécie votre réponse, mais ça ne répond pas à ma question. Evan Leibovitch, Paul? Je veux reprendre ce que tu as dit et je te remercie ce point de vue d'Atlarge qui a aussi travaillé là-dessus. Je veux juste reprendre ce qu'il a dit et reformuler sa question un peu. Est-ce que le désir de ne pas divulguer les données à ce premier niveau fait partie du RA juridiquement? Vous avez parlé hier d'un droit à la confidentialité dans les premières étapes. Donc, je voulais savoir si le manque de divulgation correspond à ce qui était contracté, parce qu'il y a un pourcentage contracté à la confidentialité dans les premières étapes, ou est-ce une question de courtoisie ou de ce qui est sous-jacent? La non-publication des données, est-ce une politique? Est-ce une exigence contractuelle? Et alors, si ça pourrait accélérer le processus, et vous disiez avant la deuxième notification, après la deuxième notification, on va publier votre nom, ça pourrait encore accélérer le processus. Et par rapport à ce que le titulaire du nom de domaine utilise pour avancer, ce serait un bon outil. Donc, je voulais reprendre ce que Paul a dit. Donc, en premier lieu, dire que j'étais d'accord avec lui et puis demander, dans un point très spécifique, quelle est la justification pour ne pas divulguer les données du bureau d'enregistrement. Est-ce une exigence que vous avez ou un choix interne? Maggie Sorad, bon, le désir de ne pas publier, je ne suis pas sûre ce que vous cherchez à publier, en fait. Corrigez-moi si je me trompe. Vous voulez des données sur le volume de plaintes par bureau d'enregistrement? C'est bien ça? Paul dit, ce serait très utile d'avoir des informations sur la quantité de plaintes et savoir si ces plaintes ont été justifiées ou pas. Et puis, si elles étaient justifiées, si elles ont été résolues ou pas. Et donc, j'ai un bureau d'enregistrement. Il y a des justifications pour des plaintes. J'en ai 10. Je m'assure en tant que consommateur que les gens se plaignent par rapport à ces gens. Et il y a 10 plaintes qui ne sont rien. Et alors, s'il y a 10 plaintes contre moi, 9 sont justifiées, mais une ne l'est pas, on sait que ce n'est pas... C'est un bureau d'enregistrement qui ne forme pas ces gens ou qui ne s'occupe pas de la conformité contractuelle. Il y a une politique de consensus et qu'il y a un consommateur. En tant qu'avocat aussi, si je veux avoir un droit de marque, je ne dirai pas à mon client qu'on a une bonne décision, mais que les gens vont qu'à coopérer. Donc il faut développer ce facteur et le coût supplémentaire. Donc oui, les données sont importantes. Je pense qu'il est important aussi de la suivre et l'attacher aux résultats pour que les gens jugent eux-mêmes. Parce que c'est une histoire. Il pourrait y avoir plein de plaintes non justifiées. Maggie, merci de ta justification, Paul. Alors, Evan, le désir de ne pas divulguer les données, j'ai remis le processus ici, se base sur la compréhension que tout le monde a une résolution informelle comme but et pour aborder encore une fois la question de ce qu'on appelle la disponibilité des données pour savoir qui sont les parties contractantes qui sont atteintes. On publie tout ce qui atteint la notification d'enfreinte avec toutes les raisons pour lesquelles cela constitue une enfreinte. Et puis on a aussi les données des secteurs qui sont hauts dans les notifications d'enfreinte. Donc je reviens au processus où l'on dit on travaille dans une résolution informelle. Et lorsque c'est publié, c'est dans l'espace formel. Evan, bon, si comme vous dites, il y a une consultation publique qui mène à la conclusion de pouvoir maintenir tout cela privé, on pourrait revenir. Je me souviens pas que la large ait fait partie de cette conversation particulière. Il y a un bénéfice ici. Si vous avez des acteurs qui travaille sur la résolution des problèmes après la troisième notification, mais qui ont toujours des plaintes qui sont résolues après la troisième notification, vous croyez qu'elles sont fermées, elles n'arrivent jamais à l'enfreinte. Mais en tant que choix des utilisateurs, des consommateurs, cela devrait être publié parce que ce genre de divulgation est aussi utile. Donc, c'est résolu, c'est fermé, pas de problème. Mais en fait, si on dépasse les 3-4 notifications et que vous avez un historique d'une personne qui normalement reçoit des plaintes valables, qui occupe votre temps et le temps du plaignant, qui se résout à la fin. Mais vous avez toujours à faire cela. C'est comme un patron que vous avez. Ce sont des informations utiles que les bureaux d'enregistrement devraient savoir, même si vous êtes même si en ce qui vous occupe, elles sont résolues. Maggie, Evan, je corrigerai ici, cela nous importe, on le regarde et j'ai mis la diapo 25. Voyez le volume de plaintes dans la troisième notification. Lorsqu'on a des comportements répétés ou un bureau d'enregistrement ou une partie contractante répond à la troisième notification, on regarde les tendances et on prend des mesures de sensibilisation pour comprendre d'abord ce qui a été fait, puis faire un plan de remédiation si c'est un processus ou une formation, ce qui est dans notre portée. On a demandé ce temps de début à fin Et lorsque vous voyez le comportement et que ce n'est toujours pas abordé après la sensibilisation, on a des outils de portée, des notifications d'escalade et en fait des notifications en général. Donc ce n'est pas que ça ne nous importe pas parce que ça conclut à la troisième notification, on fait un suivi aussi. Et on a peu vu ce genre de comportement que vous décriviez. Evan dit non, je ne voulais pas dire que ça ne vous importe pas. Je disais simplement que peut-être vous devriez ajouter à vos outils que pour ce niveau de fonceur répétitif, ces informations vont changer et peut-être que ce serait beaucoup mieux de le faire dans le public que en privé. Donc, publier les données, ça va vous donner de meilleurs résultats. Bonjour. Merci de votre présentation. Je ne sais pas quel est le nom du monsieur qui parle. Et pour son expérience, et j'apprécierais beaucoup plus d'importance, d'emphatisation sur les données parce que ça permet le progrès. Une partie de cela, dans les statistiques qui sont rassemblées, il y a des tendances qui peuvent être identifiées, mais les données sont valables si ça nous aide à identifier les défis et les secteurs problématiques dont on essaie de s'occuper et les objectifs. Donc, par exemple, pour le problème d'Evan, on n'a pas besoin d'un nom. Ce serait utile de savoir quel est le pourcentage ou les caractéristiques des bureaux d'enregistrement qui ont passé typiquement à la troisième notification et pas la première. Donc, il est utile de voir quelle était la tendance, si c'était régional, si c'était concernant leur taille, leur âge. Si c'est pour la quantité de TLD pour lesquels ils sont des revendeurs, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça le problème. Moi, j'essaie de deviner quels sont les problèmes qui pourraient être des facteurs. Donc, on essaie de trouver des paramètres pour la confiance des consommateurs. Le choix, la concurrence, quoi que ce soit. Et pour la plupart, on sait que vous n'allez pas les voir. Et donc, on essaie d'entrer dans le détail et le comprendre. Vous avez montré les dernières six réunions une diapo sur la conformité selon les régions. Mais c'est en fait quoi? Une question de langue, une question d'application de la loi dans ces régions? Est-ce que c'est plus difficile de faire respecter les contrats dans ces régions? Vous avez dit, j'espérais pouvoir réduire ces chiffres. Et en fait, à mon avis, c'est ce que vous devriez être en train de faire, ce que vous êtes censé faire. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous avez un impact et des choses que vous devez déployer. Je sais qu'il y a une différence entre les deux. Mais en même temps, si on entre dans le détail de ces informations pour comprendre les défis et les caractéristiques, c'est ça qui m'intéresse. Pas de dire, voilà ce qu'on est en train de faire, parce que j'apprécie bien aussi, mais si on dit, on a vu les données, voilà ce qu'on a identifié, il y a trois défis principaux qu'il faut qu'on aborde. Maintenant, à mesure que vous avancez dans votre travail, je ne vous envie pas, mais il faudrait que vous disiez, voilà les défis, on va identifier ces trois défis, on va essayer de les résoudre, et on a essayé de voir, on voudrait voir si cela a fonctionné. Donc, on voudrait trouver trois points différents pour aborder ces défis, trois moyens différents. Et si c'est des tendances et des objectifs, je vous remercie de nous avoir montré ce que vous avez montré. C'était quoi les taux de conclusion qui a amélioré 35%? J'aime bien cela. Et je vois ici plein d'occasions d'entrer dans un niveau de détail plus profond pour voir ce que les données veulent dire aussi. Voilà ce que je voulais dire. Et en ce moment, je sais même pas. C'est-à-dire, je pense que l'ICANN a un problème en général que j'appelle l'obscurité à travers la transparence. Il y a plein de données. Et je sais pas si ces statistiques sont bonnes. Je veux pas dire valables. Mais je ne sais pas si ce taux de plainte pourrait être un taux décent, parce que ça pourrait être beaucoup pire en fait, ou alors si ça pourrait être réduit à la moitié. Voilà ce que je voudrais savoir, si possible. Donc je sais que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine et que vous savez déjà. Et je suis sûre que vous avez peut-être été très occupé avec la taille, etc. Mais on essaie d'entrer dans le détail, de communiquer. Cette organisation prend des petits pas dans la redevabilité qui exige des objectifs. Sans objectifs, on a zéro redevabilité. Et cela est vrai pour l'organisation entière. Mais la conformité, hier, on avait une bonne occasion pour comprendre où étaient les défis et si on était en train de réussir à les aborder, la possibilité de le faire est avec le département de conformité. Maggie Serrad, j'ai une question. Est-ce que vous avez vu l'onglet de conformité sur MyICAN? Parce qu'on a fourni plein de données et ce serait utile pour les personnes qui ont fourni des contributions, à qui je leur en remercie. Mais si vous voyez pas le niveau de niveau dont vous avez besoin, c'est vrai. On a plein de données, on les considère, on voit les tendances, on prend des mesures et des activités. Mais j'ai dit ça plus tôt. Comment pourriez-vous lier les activités de sensibilisation à une réduction dans les plaintes? Moi, je n'ai pas trouvé cette formule. Si vous l'avez, donnez-la moi, parce que moi, je travaille toujours. J'ai un expert qui connaît le soutien de performance. On voit les tendances par région. On connaît le volume de plaintes qui atteignent la troisième notification. On ne sait pas s'il s'agit d'interprétation, d'un manque de compréhension. En plusieurs instances, c'était un manque de compréhension dans la communication qui nous a aidés à introduire les différentes langues dans les aspects de communication. Le plus grand volume a toujours été l'inexactitude WIS et les transferts. Et ça l'est toujours parce qu'il y a des commentaires pour tout le monde. Donc, on mène des activités de sensibilisation constantes et des discussions constantes pour former au niveau des bureaux d'enregistrement, au niveau régional et au niveau des réunions de l'ICAN. Donc, il y a beaucoup d'informations et je pense qu'en fait, j'ai du mal à définir ce qu'on attend de nous. Peut-être vous pourriez m'envoyer un email pour me le faire savoir, me donner un X sur Y. Et voilà ce que je définis pour Y, 2, B, etc. Et j'aimerais bien avoir un dialogue, même si je comprends pas l'email, même si je le comprendrai. Vous connaissez mon style, voilà longtemps que je suis ici, donc j'aimerais bien avoir cette confirmation. Et moi, je serai transparente, je peux dire, franchement, si je peux respecter vos attentes dans ces paramètres ou pas, si je peux m'y adapter. Je ne dirais pas non et pourquoi, en fait. S'il vous plaît, parce que c'est frustrant pour moi. On me dit à chaque fois les mêmes choses, à chaque fois qu'on croit avoir avancé, parce qu'on donne plus, apparemment, vous n'êtes pas satisfait. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous une pause avec vos attentes. Je vous entends, mais envoyez-moi un email pour me dire quelles sont vos définitions, qu'est-ce que vous cherchez. Je pense qu'avec le groupe de travail, on considère plus de 40 paramètres qu'on a publiés. Voilà, oui, c'était les contributions de l'ALAC. Donc, on a reçu plein de demandes de paramètres. Le personnel est en train de les évaluer. On a fourni des contributions personnelles, des demandes de clarification, des recommandations pour une solution pour que cette métrique soit validée. Mais on sait qu'il y a un nouveau groupe de travail qui va être créé. Donc, on a beaucoup de données. Allez voir sur MyICAN. Si vous ne les trouvez pas, demandez-les-nous. On verra parce que ce soit là, mais comment pourrais-je rapporter sur les différents secteurs et les progrès actuels si j'avais pas ces données? Oui, Salah? Merci, c'est Salah Nieta Tamanika Wemaro. Au cas où cela sera transcrit. Mais avant de faire mes commentaires, je voudrais dire pourquoi je fais ces commentaires. Avant, je réglais le marché des titres valeurs et des actions dans mon pays. J'apprécie vos guides de plainte. Parfois, c'est pas en termes de juridiction, mais en termes de sujets qui sont en train d'être contrôlés ou régulés ou peut-être je ne devrais pas dire régulé, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a des niveaux de mauvais entendus sur certaines choses, et parfois je sens que les plaintes et l'équipe de plaintes ne peut faire plus que d'identifier les paramètres. Et oui, on pourrait leur dire, pardon, on pourrait leur dire d'identifier des sous-paramètres plus spécifiques encore. Et à partir de ce que Maggie dit, on comprend qu'ils se sont ouverts à cela. Il faudrait les chercher sur My Icon Space. Mais je pense que la confusion est quelque chose de très simple à résoudre. Et c'est une confusion qui vient des informations des utilisateurs. Et cela affecte des différentes priorités, différentes attentes, dans le type d'analyse que l'on a. Et pour les différentes unités constitutives, on entend différentes plaintes. C'est différent entre les personnes qui sont intéressées avec l'application de la loi, ceux qui sont intéressés par la perspective des marques déposées. Donc je pense qu'on devrait aborder la question de la façon suivante. Peut-être lors de la prochaine réunion ICANN, ou ce n'est même pas la peine d'attendre peut-être, mais on devrait avoir une séance qui ne porte pas sur la conformité, mais qui soit un dialogue ouvert où on discuterait potentiellement l'utilisation des données et des statistiques. Et je suggérerais avoir une statistique comme manteau qui couvre tout. Et lorsqu'on verra cela dans cette séance, on pourra voir les différentes attentes, les différentes demandes. Et on pourrait les diviser, identifier quelles sont les plaintes de la CAN et jusqu'où vous pouvez les résoudre. Et je conclurai là par mon commentaire pour dire que les plaintes n'ont qu'une juridiction spécifique. Mais certains aspects requièrent de la collaboration intercommunautaire des parties prenantes même pour ce qui est de l'engagement positif. Et parfois, ça devrait être une approche plus simple et qui devrait être encouragée aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Salah, dit Maggie. La question par rapport à cette séance. Et est-ce que vous avez abordé, il y avait un groupe de travail? OK. Parce qu'on participe aussi toujours du point de vue du personnel. Il y a une équipe stratégique qui est dirigée par Margie, qui est mon contact direct en tout cas. Il travaille sur la révision des 70 paramètres et il travaille dessus. Donc peut-être que votre recommandation pourrait lui parvenir. Je lui ferai savoir cela. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi une note. Je ne veux pas oublier ce que vous m'avez dit parce que j'ai pris note de deux aspects. Je ne voudrais pas dire que j'ai tout noté. Mais envoyez-moi une note, s'il vous plaît, pour me dire quelle est l'idée de la séance. Si vous ne savez pas où Margie est, je lui renverrai cela et on verra les activités, la planification, la facilitation et les aptitudes pour lui remettre cela. Maintenant, par rapport à la confusion, vous avez entendu parler d'un effort intensifié dans les régions sur le rôle de l'ICANN, sur le mandat de l'ICANN. Et une partie de tout cela est aussi de discuter le rôle de la conformité. La conformité ne voyage pas aux régions, mais on a des VP régionaux qui sont engagés et informés et qui représentent l'ICANN sur le mandat de l'ICANN et son rôle. Donc, c'est un domaine que vous pensez qu'il n'est pas abordé. Envoyez-moi cette note, s'il vous plaît. On sait qui et où, quand et comment. Donc, je le ferai parvenir aux personnes indiquées. Merci. Monsieur ne s'identifie pas. Pardon, je vais aborder vos commentaires. Pardon, dit Maggie, je pensais qu'on allait jusqu'à 10h30. En fait, on n'avait que jusqu'à 10h. Il faut qu'on conclue. Il y a une autre séance dans cette salle. On ne s'est pas rendu compte de l'heure, hein? Encore une fois, pour les premiers, si vous pouvez nous contacter, si vous avez des idées ou des questions, faites-les nous savoir. Merci d'être venu dans cette séance ce matin.